A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Bienvenue et malhaba au pays du houmous, du fromage blanc et d'un figuier jamais très lointain. Le pays littéraire de Karim Khatan, la Palestine. Pas plus français que Karim Khatan qui vit entre Paris et Bethléem. Pas plus palestinien que ce doctorant en littérature comparée à l'université Paris 10, fondateur de l'association El Atlal, cette résidence d'artistes et d'écrivains à Jéricho. Pas plus franc que Karim Khatan sur son arabité mobile. Ça se lit très bien dans son recueil de nouvelles qui vient de paraître sous le titre « Préliminaire pour un verger futur ». Bonjour Karim Khatan.
Bonjour.
Alors question préliminaire au Karim multiple que vous êtes, c'est-à-dire franco-palestinien et en même temps un palestinien de la diaspora. Quand on vous lit, on a la sensation que ce qui vous intéresse de façon prioritaire, ce sont les Arabes au contact de l'ailleurs.
Oui, absolument. En tout cas, dans ce recueil de nouvelles, je pense que ce dont j'ai voulu parler, c'est l'ailleurs en réalité. Ce sont des nouvelles, en fait, effectivement, qui concernent des personnages palestiniens qui ne sont jamais en Palestine, y compris dans la première nouvelle qui se passe à Gaza, mais pas réellement à Gaza, dans un hôtel qu'ils ne quittent jamais, donc que les personnages ne quittent jamais. Ce qui m'intéressait, c'était cette interface, justement, entre l'ici qu'on porte en soi et l'ailleurs.
De Londres à Bombay, en passant donc par un retour à Gaza, la première nouvelle s'intitule « Yod » et page 39, Karim, vous écrivez « Les quartiers de Gaza portent des noms de fruits et de légumes. C'est la topographie d'un pays de merveilles, une île aux fleurs. Gaza était destinée à la beauté tropicale. »
M comme mille et une nuits.
Alors Yod, ça raconte l'histoire de deux hommes amoureux qui se retrouvent, vous le disiez, à Gaza, mais pas complètement, puisqu'ils sont dans une chambre d'hôtel ultra moderne, et c'est un hôtel en même temps inspiré d'un caravansérail. Et être dans cet hôtel, comme vous l'écrivez, c'est comme rentrer dans un tableau où serait encadrée la mer. Que viennent chercher ces deux hommes à Gaza ?
Alors justement, bon d'abord, en fait, le narrateur peut être un homme ou une femme, c'est une petite ambiguïté qui me plaisait, je crois. Justement, ils ne savent pas ce qu'ils viennent chercher. Donc ces deux personnages sont amoureux, vivent une espèce d'idylle et sont envoyés à Gaza pour une mission. L'un d'entre eux vient de Gaza, et ce qui est important, c'est que ce qu'ils viennent chercher, ils ne le trouvent pas. Ils ne voient même pas Gaza en réalité, ils sont bloqués dans cette chambre d'hôtel. Quand ils regardent à l'extérieur, la mer, la ville, etc., ils voient d'autres villes. Ils voient Miami, ils voient Genève, ils voient toutes sortes d'endroits, mais ils ne voient pas Gaza. En fait, c'est un peu, ils cherchent une Palestine qu'ils ne sont pas capables de voir, je pense.
C'est une Palestine sublime ou sublimée parce que c'est une Palestine du souvenir.
C'est une Palestine du souvenir, oui, ou en tout cas une Palestine qui est bloquée dans le souvenir.
Le souvenir de l'enfance.
De l'enfance, absolument. Mmh.
La Palestine, c'est la terre de la naissance, mais ça peut aussi être devenir la terre de la mort. Parce que l'un des... Moi, j'ai cru que c'était deux hommes, vous voyez. Il a le souhait d'être enterré dans cette ville. Oui. C'est curieux parce qu'en lisant votre nouvelle, Karim Khatan, j'avais souvent cette expression en tête, « voir Jérusalem et mourir ». Et là, on aurait pu remplacer ça par « voir Gaza et mourir ».
C'est très très juste. C'est très 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 juste. Je n'y avais pas pensé comme ça, mais c'est vrai que c'est cette même dynamique en réalité de... désir. Alors la Palestine, c'est le pays de la mort, c'est aussi le pays de l'amour, c'est ce que j'ai envie de montrer. Et il y a vraiment un enjeu à venir voir ces lieux-là avant de mourir, en effet, et d'y mourir, ou en tout cas d'y être enterré.
Donc c'est la terre de la perte, c'est la terre de plusieurs morts, c'est la terre de la mort de l'enfance, pour les déracinés qu'ils sont, et c'est aussi la terre où la langue est aussi en perdition. Vous avez des phrases crues. Vous écrivez « N'entends-tu pas dans ces sonorités, les sonorités de la langue arabe, je suppose, la charogne qui rit, la goule qui guette, le large qui s'effondre ?»
Alors ça, pour le coup, ce rapport à la langue, c'est la seule chose qui serait peut-être un peu autobiographique. Moi, je sais, ayant grandi en Palestine, mais avec une éducation française, que jusqu'à très tard, j'ai associé la langue arabe à quelque chose de mortifère, à quelque chose qui me tuerait.
Pourquoi ?
Parce que l'occupation. Parce que du coup, on savait qu'il y a beaucoup d'endroits dans ce pays, en fait, où il est dangereux de parler arabe. Donc, très rapidement, les deux se lient et mes sonorités arabes pendant très longtemps étaient celles de la mort et celles du deuil. Et c'est ça que je voulais aussi faire ressortir un peu, surtout dans cette nouvelle-là. Ce rapport impossible, en fait, à une langue vivante. Le retour l'intéressait beaucoup aussi. Le premier retour, le deuxième, les 6 retours effectués au cours de ma vie. Il voulait le détail de chacun. La compagnie aérienne, le vol, l'escale, le trajet en voiture, la première fois que je dormais à nouveau dans le lit de mon enfance. Il veut savoir, très précisément, comment j'ai vécu chacun des incendies de mon existence. Comment était Jérusalem la première fois ? Et la deuxième ? Et la dixième fois, comment était Jérusalem pour toi ? Un jour, nous nous étions embrassés dans une ruelle de la vieille ville, assis sur des marches en plein jour. C'était sa première fois à Jérusalem. Il était étourdi. Je n'avais jamais de ma vie rien fait d'aussi choquant. J'en ai encore le goût dans la bouche, même si ici, je suis à des continents de Jérusalem.
Un extrait en sol majeur de Liotte, donc une de vos nouvelles, Karim Khatan, avec en son centre, c'est moi ce que j'ai lu en tout cas, même si c'est votre faute, hein, puisque vous avez mis cette ambivalence.
Absolument.
En son centre, ces deux personnages arabes et homosexuels, le mot n'est jamais employé, hein, que ce soit clair. Mais pourquoi avoir voulu raconter Gaza à travers cette ambivalence amoureuse ?
Parce que pour moi, comme je pense pour la plupart des Palestiniens, en fait, le rapport à la Palestine et à la terre, surtout, est un rapport d'ambivalence amoureuse. C'est un rapport à la fois d'impossible et de possible. C'est pour ça que dans cette nouvelle, comme dans toutes les autres, en fait, ce sont des relations amoureuses impossibles. Alors ici, peut-être homosexualité. Si ce n'est pas homosexualité, en tout cas, relation extra-conjugale. Dans la dernière nouvelle, relation adultère. À savoir que toute leur intimité est définie par une impossibilité, qui est la même impossibilité que celle de se rapporter à leur pays.
Et en même temps, vous dites que la Palestine, c'est la terre de l'amour.
Oui, l'amour est une chose qui n'est pas forcément possible, mais oui, oui, absolument, ça reste la terre de l'amour et du désir.
A.
A. Comme. Atlas.
Alors à travers vos nouvelles, je remarque Karim Khatan que vos personnages, tous palestiniens, sont par la force de l'histoire des voyageurs nomades. Comme cette Émilie qui sourit sur une photo de 1934 prise à Jérusalem par un photographe arménien, j'aime beaucoup ce détail. Et cette Émilie va épouser un de ses cousins. Et ensemble ils ont un point commun, ils aiment bien regarder l'Atlas. Alors pourquoi ce départ autour de l'Atlas ?
Je pense que l'Atlas incarne vraiment une double réalité, en fait, parce que le voyage, c'est l'ouverture de tous les possibles. C'est un moment où on peut découvrir des horizons nouveaux. Et dans le cas d'Émilie, qui va voyager très très loin, dans les années 40 et 50, pour une jeune femme palestinienne, aller au Japon, au Soudan, en Inde, c'est de l'inouï. Et en même temps, tous ces possibles s'ouvrent et l'Atlas incarne ces possibles. Et en même temps, comme vous dites, ils voyagent par la force de l'histoire. Et donc, ils sont contraints au final de voyager. Il y a eu, en fait, l'Atlas incarne cette double réalité de liberté totale du voyage et de contrainte. Et j'aime bien que vous n'ayez pas utilisé le mot d'exil, justement. Ce sont des nomades. Parce que dans cette nouvelle, au final, ce ne sont pas non plus des réfugiés. Ce sont des gens qui peuvent se permettre de voyager. Donc il y a vraiment ce mélange de possible et d'impossible.
C'est la vocation du Palestinien, depuis l'origine de l'histoire de la Palestine.
Oui, absolument. D'ailleurs, les Palestiniens sont un peu les Juifs errants du XXIe siècle.
J'aime bien cette expression aussi. Émilie fait partie en tout cas de cette génération qui est fascinée par un empire,
oui.
L'Empire ottoman.
L'Empire ottoman, puis au cours de ses voyages, ça devient un peu l'Empire britannique. Et j'ai beaucoup insisté sur ce terme d'empire qui la fascine, pour aussi insister peut-être sur ce côté colonisé de son être. En soi, Émilie va voyager en fait dans tous les pays de l'Empire britannique pour échapper à l'Empire ottoman au début et ensuite pour échapper à l'occupation, enfin à la création de l'État d'Israël. Mais malgré tout ça, elle reste fascinée par les objets et les paysages qui incarnent ce mot empire qu'elle ne comprend pas, mais qu'elle trouve absolument envoûtant. Oui. Mais ça reste une Palestinienne qui veut rentrer en Palestine.
Avec toute une dimension symbolique quand même autour de la fertilité, parce qu'on suit sa vie de jeune femme au rythme de ses grossesses, au rythme des deuils de ses enfants. Il y en a qui survivent, il y en a qui meurent. Et la question de la fertilité, sous votre plume, est toujours en lien avec la terre, avec la question de la terre.
Absolument, avec la question de la terre, avec quelque chose d'aussi simple que elle enterre ses enfants qui meurent dans les villes où elle a été. Tout d'un coup, ces terres se multiplient par le fait même que les corps, les cadavres de ces bébés, en fait, il y en a un au Soudan, un à Bombay, en fait, elle est vraiment éclatée partout dans le monde parce qu'elle a laissé quelque chose dans chacune de ces terres.
Donc c'est une Émilie qui symbolise quoi de l'histoire de la Palestine ?
Question compliquée. Je ne sais pas si Émilie elle-même symbolise quelque chose de l'histoire de la Palestine, mais son itinéraire peut-être symbolise vraiment ce balancement entre ces pertes constantes qui reviennent en permanence. Les Palestiniens perdent tout au fur et à mesure de l'histoire, au fur et à mesure de l'histoire d'Émilie. Et en même temps, cet enrichissement douloureux qui vient du voyage. Son époux est très amoureux d'elle. Il lui est reconnaissant d'être la maison. Il rentre chez lui et il peut lui parler arabe enfin, laisser sa langue se délier un peu. Quel effort de parler toutes ces langues étrangères. Émilie lui crée une Palestine dans leur minuscule appartement, au cœur de Bombay. Les enfants bavardent en arabe et en anglais. Elle les gronde. À la maison, on parle arabe. L'anglais, c'est pour l'école. Même si parfois une phrase en anglais lui échappe. « Stop that, you silly girl ». Elle maintient l'arabe. Non qu'elle soit particulièrement attachée à la langue, pour elle, ça ne change rien. Le foyer, ce n'est pas parler arabe. C'est recréer quelques instants l'odeur de menthe, la limonade sucrée. C'est une toile d'araignée de sensations.
Extrait en sol majeur de cette nouvelle Bombay, midi à la fin août 1948. Karim Khatan, cette date a évidemment une importance.
Bien sûr, donc la date telle qu'elle est présentée dans le titre de cette nouvelle, fait référence à un événement majeur dans la vie d'Émilie, qui n'est jamais vraiment explicité. Mais une décision qu'elle prend ou qu'elle ne prend pas, ce jour-là, à Bombay, à la fin août 1948. En même temps, bien sûr, c'est 1948, donc c'est la création de l'État d'Israël. Et ce qui est important, c'est qu'Émilie ne le sait pas. Elle comprend qu'il y a des choses qui se passent dans son pays, mais on lui ment. Ses sœurs qui lui écrivent du pays ne lui disent pas tout à fait, son mari ne lui dit pas. Donc c'était aussi pour recentrer sur cette date de 1948. Je dis quelque chose de l'ordre, 1948, c'est le moment où la terre entière est en flammes. Et en fait, c'est un regard palestinien sur le monde, où tout d'un coup, le monde est en flammes après ce moment de la Deuxième Guerre mondiale.
On va rester sur ce sourire mystérieux d'Émilie sur cette photo, Karim Khatan. Et puis, tracer direction Londres. Parce qu'après Gaza, après Bombay, vous nous entraînez à Londres, fin des années 90, avec un Palestinien que vous décrivez comme un arabe mal dégrossi, passeport et regard vierge. Et ce Palestinien a la chance, je dirais, de tomber sur une certaine Asma, une Palestinienne de Londres, riche, mystérieuse, un peu caméléon identitairement, une bourgeoise de Jérusalem nourrie au minaret, je vous cite. Elle symbolise quoi, cette Asma qui s'avère être une sorte de Scheherazade moderne ?
Asma, en fait, et pour ce personnage, cet homme qui n'est pas nommé, en fait, devient la Palestine pour lui. Elle incarne la terre palestinienne dont il est donc exilé et qu'il retrouve sur le corps d'Asma. Mais en même temps, je voulais pointer un peu du doigt le côté un peu échoué de ce genre de symbolisme, puisque Asma n'est qu'une femme et ne veut que vivre une histoire d'amour et se raconter des histoires entre eux, mais lui persiste à la voir comme une allégorie ou un symbole de sa Palestine perdue.
Et en même temps, vous pointez la question de la connaissance de son histoire, parce que cette Asma connaît l'histoire de la nativité. Donc là, on est sur la terre biblique, la terre qui enflamme les esprits de tous les côtés, sur cette terre palestinienne. Et c'est important de connaître cette histoire de la nativité. Pour quelle raison, selon vous, Karim Khatan ?
Oui, parce qu'en fait, Asma porte avec elle en fait les légendes de la Palestine. Et l'aspect légendaire est extrêmement important parce que c'est aussi comme ça qu'on construit un rapport à sa terre et un rapport à une nation. Et en réalité, ce n'est pas une digression, mais dans les médias, la Palestine est un endroit sec, qui n'a pas d'histoire en fait, qui est une espèce d'endroit voué à une espèce de souffrance permanente. Or, c'est un endroit qui porte des légendes, pas seulement les légendes qu'on a données au monde, à savoir les religions, mais aussi des légendes qui nous sont propres, que lui raconte Asma.
Ce sont des légendes que les Palestiniens eux-mêmes connaissent mal. À vous lire.
En tout cas, ce personnage le connaît mal ses légendes, et c'est vrai que du coup, en Palestine, encore une fois, juste en vertu de l'occupation, on est coupé de notre histoire et de nos propres manières de raconter des histoires.
Est-ce que tous ces personnages qui produisent ces belles nouvelles, Karim Khatan, sont des personnages de fiction, ou bien est-ce qu'ils sont inspirés d'un réel qui vous est proche ?
Émilie est inspirée directement d'un réel, à savoir que Émilie et son nom et son itinéraire, c'est celui de ma grand-mère, que je n'ai jamais connue, qui est morte en 1967 d'un cancer. Bon, j'ai fictionnalisé autour, mais ça, c'est elle. Les photos, c'est elle. Le sourire secret, c'est elle. Pour les autres, bien sûr, il y a des petits bouts de beaucoup de personnes que je connais, mais c'est de la fiction. Je veux que la Palestine appartienne aussi à la fiction, pas seulement au documentaire.
Alors, comme on est dans les couleurs sépia,
oui, oui.
C'est vrai, hein?
Oui, oui, absolument.
On va s'offrir un petit Come Prima, version Dalida. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette chanson, Karim Khatan?
Dalida, c'est ce rêve de la Méditerranée cosmopolite qui est aussi un échec. Du fait juste de sa mort, en fait, de son suicide. Mais voilà, Dalida,
Dalida, c'est le symbole de tout ça?
Ah oui, pour moi, c'est vraiment...
De ce suicide méditerranéen?
Oui, absolument. Et je pense vraiment que c'est qu'elle incarne à la fois voilà, ce cosmopolitisme, Alexandrie, l'Italie, l'Égypte, la Palestine, tout ça. Et en même temps, voilà cette douleur qui vient avec, puisque c'est une femme qui a vécu de grandes douleurs. Et Come Prima, j'ai choisi Come Prima plutôt qu'une autre chanson, parce que c'est une chanson qui localise vachement de joie dans la Méditerranée encore.
Come Prima, tu me donnes tant de joie que personne ne m'en donne comme toi. C'est ta bouche qui m'apporte ma joie de vivre, et ma chance, c'est de vivre rien que pour toi. Que m'importe si tu m'aimes moins que moi? Moi je t'aime comme on aime qu'une fois, et je reste prisonnière, prisonnière de tes bras. Comme Prima, tu me donnes tant de joie. La notte, come allora magica scende, la luna splende, e tu sei qui. Mi sento un po' confusa, non so capire. Que j'espère te le rendre quand te reste dans tes bras.
Dalida, très très en sol majeur, avec l'écrivain Karim Khatan, franco-palestinien qui lorgne du côté de Jérusalem dans 3 minutes.
A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Être né à Jérusalem, est-ce que cela condamne à y mourir? Ce sera l'une de mes questions à Karim Katan, écrivain franco-palestinien nimbé de littérature française et de nostalgie méditerranéenne. En première partie, on s'est promené dans l'atlas de ces Palestiniens déracinés, tous ces personnages, en mal de pays, en nostalgie gastronomique, en destin brouillé avec l'horizon. Des Palestiniens hors champ dont il accouche dans un beau recueil de nouvelles intitulé Préliminaire pour un verger futur.
P.
P comme prophétie.
Toi aussi, tu seras vagabond. On te donnera un prénom enraciné, mais tu ne seras nulle part chez toi. Est-ce que cette parole prononcée, je crois, par un grand-père, s'est réalisée pour vous, Karim Katan ?
Oui, absolument, absolument. Je suis entre la France, la Palestine et ailleurs. Je ne me sens pas chez moi en France. Enfin, je me sens chez moi et pas chez moi. Je suis chez moi et pas chez moi en Palestine. Oui, oui. Le vagabondage, c'est le destin quand même du Palestinien.
Alors le pas chez vous en France, pourquoi? Parce que vous avez pu vous sentir complètement chez vous. Vous êtes arrivé en France en 2007 hein, pour vous y installer complètement. Oui. Tout s'est bien passé au début?
Tout s'est bien passé. J'ai fait mes études en France, tout ce qu'il y a de plus classique, sans trop me poser de questions. À ce moment-là, j'étais surtout un peu enivré en fait par des choses tout aussi bête que de pouvoir prendre le métro, de pouvoir se déplacer sans problème, sans penser à sa carte d'identité, au checkpoint, je sais pas quoi. Donc c'était un moment d'excitation permanente et j'ai voulu être français. J'ai voulu faire montrer patte blanche, en fait, littéralement blanche, en étant plus français que les Français. Tout ça m'est revenu un peu, je pense, en pleine figure après les attentats donc de 2015.
Du 13 novembre
Du 13 novembre, ouais, le 13 novembre, pas Charlie. Où quelque chose s'est libéré, je pense aussi, dans la parole en France, où tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'en fait, tous les gens, y compris les gens autour de moi, me voyaient d'abord comme un autre, comme un étranger, et pas comme un Français. Tout d'un coup, je voyais bien que ma parole n'a pas la même parole qu'un Français de France, né en France, à savoir que je serai toujours... On me soupçonnera toujours d'autre chose, comme on me soupçonnera toujours d'antisémitisme. Une espèce d'antisémitisme caché qui ressortirait à des moments de ma vie. Or, c'est quelque chose qui ne m'avait jamais traversé l'esprit. Et tout d'un coup, je me rends compte voilà, que je suis suspect, un peu.
Mais on ne fait pas mystère du fait qu'effectivement, lorsqu'on est dans un coin qui s'appelle la Palestine, vous êtes né à Jérusalem, hein, Karim Katan. Je vous laisse tousser. Il y a effectivement un terrain antisémite sur cette coin de Palestine. Est-ce que vous-même, vous avez été éduqué là-dedans ou pas du tout?
Oh, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas qu'il y a de terrain antisémite en Palestine. Il y en a ailleurs. Il y en a en France. La France est une terre fertile d'antisémitisme.
Vous diriez qu'il y a plus d'antisémitisme en France qu'en Palestine?
Ah oui, bien sûr. Et de loin, et dans toutes les communautés. Je dis, c'est pas seulement l'immigration arabe qui est antisémite. Loin de là, les Français... Les Français sont antisémites, et il n'y a pas si longtemps que ça qu'ils ont collaboré quand même avec les nazis. Il ne faut pas qu'ils l'oublient. La Palestine n'est pas du tout un endroit antisémite, c'est un endroit un peu complexe, où on a un rapport très compliqué au judaïsme du fait qu'Israël se définit en permanence comme un État juif. Mais l'antisémitisme, j'ai découvert en arrivant ici.
Du coup, vous diriez que vous avez aussi une sorte d'obsession pour le passeport?
Oh oui, si je pouvais collectionner tous les passeports du monde, je le ferais. C'est une protection, en fait, pour nous. C'est devenu quelque chose qui nous permet de respirer un peu, de se dire, mais alors on peut entrer dans des pays sans avoir peur, je sais pas, d'aller en prison ou d'être refoulé, etc. C'est devenu, oui, obsessionnel, une monomanie.
Mais peut-être que ça vient de l'arbre généalogique, hein, parce que si on s'y pose sur cet arbre, il a eu les branches un petit peu baladeuses, on vient à la fois de Palestine, d'Inde et de France.
Oui, oui, en fait, alors toute ma famille est palestinienne, globalement, disons, née en Palestine, mais par la force de l'histoire et des envies, en fait, ont beaucoup voyagé. Donc une partie de ma famille est extrêmement francophone et francophile, l'autre partie qui a plutôt suivi l'Empire britannique, justement, est plutôt anglophone.
Votre père est né à Bombay, par exemple.
Est né à Bombay avant l'indépendance, donc il est citoyen anglais. C'est une espèce de mélange compliqué de rapport à beaucoup de pays partout dans le monde.
Donc la patrie dans la famille, c'est quoi ?
C'est la Palestine, la patrie. On n'a jamais quitté la Palestine. On aurait pu, on a les moyens de quitter la Palestine. Il y a beaucoup de moments de crise où il était plus simple de partir, s'installer définitivement ailleurs. On a pu par-ci et par-là partir, mais on est resté en Palestine.
Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous réenraciner, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ce terme, en Palestine, en fondant l'association El Atlal à Jéricho?
Donc El Atlas, c'est une résidence d'artistes et d'écrivains à Jéricho. Donc tous les ans, on invite des artistes et des écrivains à venir passer du temps dans cette oasis et à produire des œuvres en rapport avec ce lieu. Ce qui m'a donné envie de revenir, c'est qu'il se passe quelque chose aujourd'hui en Palestine. J'ai constaté au fur et à mesure, en rentrant régulièrement pour les vacances, etc., que la jeunesse a un certain dynamisme qui n'avait pas forcément avant. Par exemple, maintenant, ma génération revient de façon assez massive. Donc là, beaucoup de gens se réinstallent. Ramallah, Bethléem, Jérusalem sont de plus en plus prisés par des jeunes palestiniens, des entrepreneurs, des gens de la culture, des écrivains, etc. Donc on est à un moment désespérant par ailleurs, comme on le sait, mais qui en même temps est en train de galvaniser cette société palestinienne que j'aime, cette société vraiment ouverte et progressive et rêveuse en fait. Elle revient, elle se mobilise maintenant. Alors c'est peut-être un dernier sursaut avant la disparition, ou c'est peut-être quelque chose de grand qui se crée. Je ne sais pas, mais ça m'attire. J'ai envie d'en être.
Vous êtes sur la radio mondiale avec la Marilyn du Moyen-Orient. C'est vrai que c'est comme ça qu'on présentait Asmahan. C'est tout un monde, hein, Asmahan. C'est le monde un peu Orient et Occident qu'on entend dans ces chansons, Karim Khatan.
Oui, c'est l'Orient et Occident. C'est aussi ce Levant, cette Méditerranée pleine de minorités, en fait, qui éblouit en fait de sa diversité, de sa beauté. En fait, Asmahan, c'est vraiment ça pour moi.
Une Syrienne, hein, qui vivait en Égypte, la sœur de rien moins que Farid El Atrash. Bienvenue dans le monde solaire d'un franco-palestinien qui prend langue, ça peut lui arriver, avec une poétesse canadienne, Michel Lalonde, auteur d'un poème culte « Speak White », fondé sur l'injure que les anglophones jetaient à la figure des francophones du Canada.
« Speak White ». Il est si beau de vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare. Nous sommes un peuple inculte et bègue, mais ne sommes pas sourds au génie d'une langue. Parlez avec l'accent de Milton et Byron et Shelley et Keats. Speak white.
Elle.
Et pardonnez-nous de n'avoir pour réponse que les chants rauques de nos ancêtres et le chagrin de Nelly Gant.
Elle comme langue d'amour.
Speak white. Parlez de choses et d'autres.
Alors pourquoi vous souhaitez réentendre ce poème de Michel Lalonde, Speak White, Karim?
C'est un poème enflammé en fait, c'est un poème de colère totale et absolue, qui pour moi a été très important à un moment dans ma vie, justement, enfin je pense autour de mes 20 ans, quand je l'ai découvert pour la première fois, où je me suis dit, ah, J'ai le droit d'être en colère. Et en plus, il y a ce côté assez universel que j'aime dans Speak White, à savoir que c'est quand même très spécifique, c'est l'histoire du Québec. Michel Lalonde, en fait, montre en fait, le Québec pays, pour elle, colonisé comme tous les autres pays du monde colonisés. Et ça permet un peu de détendre la question de la colonisation, de dire, bah regardez, ces Québécois aussi sont colonisés, ces gens qui parlent français souffrent d'une autre colonisation, nous sommes tous un peu dans ce bateau aussi ensemble. Il y a une espèce de colère solidaire que j'aime bien.
Mais alors, vous, le francophone arabophone, oui. Qui avait un lien un peu compliqué avec la langue arabe, dont oui. Vous dites que c'est une langue mortifère, ça vous renvoie à quelle colère linguistique, ce poème ?
Je parle couramment l'arabe, mais je le lis et je l'écris très mal. Parce que j'ai été à l'école française à Jérusalem, et donc j'ai ce sentiment d'aliénation vis-à-vis de la langue. J'écris en français, j'écris en anglais, mais je n'écris pas en arabe. Bien sûr, c'est très enrichissant, mais c'est aussi une source de questionnement et de douleur. En fait, on se demande pour qui on parle, quand on ne peut pas parler aux siens, et qu'on est condamné à parler aux autres toujours.
Est-ce que votre mère vous a vraiment dit cette phrase « Tu ne peux pas parler cette langue et ne pas vouloir mourir » ?
Cette phrase spécifiquement comme ça, non, ma pauvre mère quand même. Mais effectivement, quand j'étais petit et qu'on était en Israël, ou même quand on était seulement à Jérusalem, ma mère avait cette crainte, que je comprends très bien d'ailleurs, que je ne lui reproche pas, que quelque chose de mal m'arriverait si les Israéliens m'entendaient parler arabe. Et donc, elle me parlait français, par exemple, avec cette suprême ironie que ma mère parle français plutôt bien, mais en roulant l'air, enfin, je veux dire, c'est clairement une arabe qui parle français, et moi pas. Et donc, elle voulait absolument que je parle, dans ces moments-là, cette langue-là, parce qu'elle avait peur.
Comme un bouclier.
Absolument, c'est un bouclier, c'est aussi être caméléon, en fait, c'est passer ailleurs.
C'est dissimuler.
Ouais, c'est de se dissimuler. Et je l'ai intégré, vraiment, comme, enfin, je suis pas le seul, d'ailleurs, on est très nombreux à être comme ça. J'ai intégré, en fait, à mes dépens, cette idée que parler arabe m'exposait au danger.
Vous l'avez intégré d'autant plus que vous êtes dans la famille, vous êtes chrétien, vous n'êtes pas musulman.
Oui, absolument. Donc,
la langue du Coran n'est pas rentrée dans la maison.
Oui, après, ben, je veux dire, on parlait arabe à la maison, et même en termes religieux, je veux dire, on me traînait à l'église tous les dimanches, c'était en arabe. Non, le rapport rituel est aussi arabe. Alors, par rapport au christianisme... C'est aussi en fait une fonction de la colonisation, à savoir que si les chrétiens, pendant très longtemps en Palestine, comme dans le Levant, avaient plus de facilité à parler des langues étrangères, c'est simplement parce que les pays européens avaient installé des missions pour éduquer les chrétiens dans les pays qui colonisaient et pour créer un peu une espèce d'élite moyenne pour faire le lien. Donc c'est même le fait de parler ces langues-là avec autant de facilité, c'est tributaire de cette histoire-là.
Double aliénation. Donc,
double, oui, absolument.
Est-ce que vous vous faites à cette idée d'écrire en français sur votre Palestine ?
Je me fais à l'idée que je ne serai jamais capable d'écrire, de faire de la littérature en arabe, oui.
C'est la mort dans l'âme.
J'aime le français et l'anglais, mais il y a ce pan qui manque absolument, oui.
Comme on a tous en ce moment un peu quelque chose de Tennessee, j'imagine qu'il y a quelque chose de vous chez vos personnages. Quand vous écrivez Karim Khatam, j'appréciais qu'il fût aussi peu arabe que moi, lui qui venait pourtant de Gaza. Est-ce que ça, il y a quelque chose de vous dans cette phrase ?
J'ai l'impression de toujours parler de double rapport, mais c'est vrai que c'est toujours un peu ça. Mais quand on vient d'ailleurs, on a toujours ce rapport double de honte et de fierté. On voit toutes les mauvaises choses de nos sociétés, puis on voit toutes les belles choses, et on ne sait pas comment présenter à l'étranger de façon équilibrée le beau et le mauvais. Et c'est toujours ce truc, puis pareil, ce truc de « il n'est pas si arabe que ça », on veut s'éloigner un peu, dire « nous, on est des arabes, mais vraiment pas comme les autres ». C'est un complexe que j'ai eu pendant très longtemps, oui.
Alors en tout cas, vous êtes, vous, l'arabe du dehors. faut mettre de l'humour un peu,
ouais.
Je pense. Vous êtes classique hein, dans vos goûts littéraires. Vous avez par exemple un faible pour cette chère Colette.
Oui, mon éducation est parfaitement classique occidentale. Je connais très mal la littérature arabe, en réalité. Colette, c'est... J'ai même un tatouage de Colette sur le cœur.
Faites voir.
Ça parle du désert. Vraiment, ce qui m'a attiré chez Colette au début, c'est la langue qui est acrobatique, en fait. Et en même temps, cette liberté totale. C'est un individu qui a une vie d'une complexité complètement délirante et qui réussit à être toutes les Colette qu'elle est, à la fois, et dans ses livres, a recréé tous ces mondes de la France qu'elle vit. Et puis Colette, elle a un rapport à la terre. Ça, j'ai mis longtemps à comprendre que c'était ça aussi qui m'attirait. Cette paysanne qui décrit au final la nature comme nulle autre, c'est quelque chose qui me touche beaucoup.
Bon. Je vais rester sur ma faim, parce que moi j'aimerais bien quand même savoir ce qu'il y a sous ce pull, là, de tatoué sur votre peau. C'est incroyable que vous ayez tatoué du Colette. On peut voir ou pas ?
On peut voir.
Ah oui, c'est incroyable.
Ah oui.
Je crois que je vais faire une petite vidéo et poster ça sur notre Facebook. Mais c'est difficile de le lire.
Je peux le lire, je pense, moi, d'ici.
Dites-moi.
Enfin, je m'en souviens, du coup. Rien ne dépérit, c'est moi qui m'éloigne, rassurons-nous. Le large, mais non le désert. Découvrir qu'il n'y a pas de désert. C'est assez pour que je triomphe de ce qui m'assiège.
Mais pourquoi vous avez décidé de tatouer cette phrase ?
Je me suis posé la question très longtemps, puis tout d'un coup je me rends compte quand même qu'il y a le mot assiégé dedans, qu'il y a ce regard vers à la fois la mort et la liberté qui m'a vachement parlé, et du désert. C'est assez flou, pourquoi ? Mais ça reste l'une des phrases les plus importantes pour moi.
Quand on pense que c'est une gastronomie campagnarde, que je regrette pour vous que vous ne connaissiez pas, comment la tarte aux épinards, la tarte à la citrouille, la tarte aux poireaux frais, la tarte à tous les légumes. Et quant au chocolat grillé, devant le feu de bois ou le feu de charbon, je le connais depuis ma naissance. C'était pratiqué dans ma famille. Le chocolat grillé, c'est une chose excellente. Je vous conseille beaucoup d'essayer.
Paix comme petit plat dans les grands.
Qui êtes sensible au air qui roule, la tarte à la citrouille façon Colette, ça doit vous chatouiller les écoutilles, Karim Katan.
Ah oui, 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 ce passage qu'on vient d'écouter est fabuleux. D'autant plus, voilà, qu'il y a ce rapport à la nourriture qui est très important, comme pour nous, en fait, les Palestiniens. Et surtout, là, ce qui me frappe, c'est que Colette a peu ou prou le même accent que mon grand-père palestinien quand il parlait français. c'est merveilleux.
Donc le rapport au terroir, là. Hein,
oui, oui.
La terre est large.
La terre est large.
Ouais. Est-ce que la, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, la moulrier,
oui,
qui revient régulièrement sous votre plume, c'est un plat familial ?
C'est un plat familial, c'est mon plat préféré par ailleurs.
C'est quoi ?
Ça s'appelle la corette en français. C'est une espèce de cousin, cousine des épinards qu'on prépare mijoté avec de la viande. C'est délicieux. On dit que c'était le plat préféré des pharaons.
Voilà. Donc en tout cas, je remarque que la langue arabe se réinvite dans la cuisine.
Oui, elle se réinvite dans tous les espaces en fait concrets, dans tous les espaces où il s'agit de parler des outils, des objets de la vie quotidienne. Même pour moi, je me souviens en France, quand je suis arrivé en France, pendant des années, je me rendais compte que je ne connaissais pas les mots de la vie quotidienne. Enfin, je ne fais pas la différence entre une poêle et une casserole, par exemple, mais je la fais en arabe.
Et donc vous diriez que la patrie, finalement, elle se niche plutôt dans certains petits mots du quotidien ou dans un plat familial comme la moulouhiyeh.
C'est beau le mot « se nicher ». Oui, c'est ça. Ça se niche dans des endroits parfois attendus, parfois moins attendus, oui.
On va pousser la porte d'une de vos maisons, vous êtes d'accord ?
Ok.
Alors, est-ce que c'est votre Bethléem à vous, ça ?
C'est assez proche de mon Bethléem à moi, oui.
Vous êtes né en 89 à Jérusalem, mais vous avez grandi à Bethléem jusqu'à l'âge de 18 ans, en y vivant, j'imagine, des moments de grand espoir et des moments de grande tension. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ?
Un peu tout. Alors bien sûr, du coup, j'étais adolescent pendant la deuxième intifada. Donc quand même, ces années de formation où on se crée, en fait, on se construit. Et donc il faut savoir que pendant l'intifada, notamment, l'une des choses que faisait Israël, c'était... ils imposaient un couvre-feu sur les Palestiniens, mais un couvre-feu pas le soir, enfin un couvre-feu permanent. Donc pour moi, les souvenirs de la deuxième intifada qui m'ont vraiment construit, en fait, c'est être enfermé à la maison des jours et des jours et des jours, si longtemps qu'on en perd toute notion du temps, et d'entendre dehors les attaques, les coups de feu, les hélicoptères, c'était assez important.
Alors je crois que c'est l'heure de mettre les pieds dans le plat quand même, avec la reconnaissance par le président américain Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël, et commenté par le parti islamiste du Hamas en disant que le président américain avait ouvert les portes de l'enfer. Quelle est votre réaction à vous, le palestinien du dehors, Karim Khatan ?
C'est très difficile à ce stade de réussir à en parler. Alors d'abord, il faut pas oublier en fait qu'au final, ce que fait Donald Trump, ça reste dans la logique de la politique étrangère états-unienne. Bah, il signe la mort du processus de paix en fait, ou de l'illusion de processus de paix. En fait. Pour nous, là, ça veut dire que on ne compte absolument pas. On s'en moque, en fait, des Palestiniens, de leurs droits. Même dans les médias, quand on lit les choses, tout le monde s'inquiète d'une flambée des violences ou je sais pas quoi. Personne ne s'inquiète juste de nos droits, à nous. Donc, en mettant l'ambassade à Jérusalem, il reconnaît, en fait, implicitement la légitimité des colonies. Et donc, en fait, il entérine l'existence des colonies et donc, de fait, plus de solution à deux États. Là, on va clairement, si on est honnête avec nous-mêmes, vers une solution à un État. Ce qui, à la limite, si j'ai désespérément envie de trouver une bonne chose peut-être à ces décisions, c'est qu'on ne se leurre plus en pensant à deux États ou je ne sais quelles idioties. On sait qu'on aura un seul État. Et maintenant, il faut essayer de travailler, je ne sais pas comment, pour déjà rester vivant, pour qu'on nous oublie pas, pour qu'on ne devienne pas une minorité ou je ne sais quoi, et pour réussir à avoir un seul État viable et juste, je ne sais pas.
On entend votre colère, hein, mais malgré cette situation de quasi-apartheid, et j'assume ce mot, vécu par la Palestine, vous, en tout cas votre génération à vous, Karim Khatan, parlez de miracle palestinien, vous décrivez une société palestinienne assez ouverte, et peut-être que vous le devez aux femmes, et notamment à la génération de votre mère et de votre grand-mère qui vous ont transmis chacune une certaine idée de la Palestine, c'est-à-dire ?
Alors, sans faire de généralité un peu
lyrique,
les femmes palestiniennes... C'est pas facile d'être une femme palestinienne. Entre la misogynie, l'occupation, tout ça, on s'en prend quand même plein la gueule. Du coup, ça crée des femmes...
J'aime bien que vous disiez « on s'en prend ».
Elle. Du coup, ça crée vraiment aussi, je pense, des personnes d'une force extraordinaire. Et moi, je sais que ma grand-mère, celle que j'ai connue, et ma mère, par exemple, sont des, et beaucoup d'autres femmes, d'ailleurs, dans ma famille, sont des personnes fortes, en fait. Sont des personnes qui m'ont appris à raconter des histoires. Ça, je sais que j'ai appris à raconter des histoires avec elle et à transmettre en fait les histoires.
Et à faire rentrer la Palestine dans la fiction, vous le disiez.
Et à faire rentrer la Palestine
dans la littérature, en tout cas.
Absolument. Et dans la fiction, et à enjoliver en fait, à savoir dire les choses. Et en même temps, ma grand-mère était une grande activiste politique, une militante politique acharnée. Vous imaginez cette espèce de dame très élégante, bourgeoise de Bethléem qui va dans des manifs, dans la boue, etc. C'est quand même des images frappantes. Et pour moi, ça a été très important, d'autant plus que, vous savez, aujourd'hui, hors de Palestine, c'est pas le cas en Palestine, mais on a l'impression quand même que la question palestinienne est une question religieuse ou je ne sais quelle idiotie. C'est pas le cas en Palestine. Peut-être les Israéliens, puisque eux, ils sont un peu une théocratie, mais nous, personne ne le pense en termes de musulmans, chrétiens, je ne sais quoi.
C'est une question de terre.
C'est une question de terre, une question de justice toute bête, en réalité. Et c'est cette figure aussi de cette femme catholique, très croyante, ma grand-mère, qui est une militante acharnée. C'est important de maintenir ça, pour qu'on ne prenne pas en otage notre Palestine en faisant autre chose.
Une dernière question. Est-ce qu'être né à Jérusalem, cela condamne à y mourir ?
Cela condamne certainement à mourir plutôt que d'autres, je crois. C'est mon côté un peu fataliste. Peut-être, en tout cas, ça condamne à être enterré pas très loin de Jérusalem.
En sol majeur, @rfi.fr.
À lire aux éditions Elizade, préliminaire pour un verger futur, et c'est signé Karim Khatan. Est-ce qu'on se dirait au revoir avec... c'est de la pop, hein ? Non ? Nicky Jean, qui chante Hands
oui,
Up.
Nicky Jean, oui.
Nicky Jean.
C'est de la pop.
C'est de la pop ?
Je pense.
Ouais.
Someone shot up the corner, stuff on his line on the floor. scene. They're talking to the witnesses, they're getting their descriptions in, and got them in, so it seems. They spotted him and they got him, they ran up on him and shot him just half a mile away. Just some kid with headphones rocking with his hands deep in his pockets, never even heard him say, put your hands up. Some kid with headphones rocking with his hands deep in his pockets, never even heard him say, put your hands up, put them up. Just some kid with headphones rocking with his hands deep in his pockets. For no reason, activists with they clenched fists, they say black man's always in season. Officer in the court with the force he supports, swears he'll tell the truth.
Voilà une petite note de légèreté quoi, dans ce monde de brut. En sol majeur avec Facebook, Twitter et puis derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve demain avec Mohamed Mbougar Sarr. À demain.